Ben, je voulais vous parler des conséquences sur le terrain des décisions en termes d'effectifs dans l'éducation nationale qui sont faites par ce gouvernement. Ça se traduit pour une maternelle, la maternelle de Cervelle, par des classes de 35 élèves, avec pas de création de poste pour compenser ça. Donc on nous fait une loi sur l'égalité des chances, bravo, mais l'égalité des chances elle commence à l'école. Et voilà comment ça se traduit aujourd'hui. Merci, au revoir.
Allô ? Allô ? Y a quelqu'un ? Ah, écoutez, je comprends pas depuis ce matin, je bouge le bouton de ma radio sur France Inter et je tombe sur Europe 1. Oh, décidément, je dois être trop vieille. C'est bête, j'ai que 35 ans.
Oui, je téléphonais pour savoir pourquoi est-ce que RMC se trouvait sur la bande FM de France Inter. Je ne comprends vraiment pas depuis 9h30. J'arrive toujours pas à retrouver les programmes de France Inter. Voilà, c'était Anne de Loire-Atlantique.
Allô, c'est pour rappeler que nous reprenons les rendez-vous au repère de Monchy-Breton dans le Pas-de-Calais entre Saint-Paul-sur-Ternoise et Arras le jeudi, donc le jeudi qui vient là, à 18h chez Tartous et compagnie. Et je crois qu'il y a du pain sur la planche. La situation actuelle est plutôt décevante. Allez, courage et luttons tous. Au revoir.
Oui, salut, c'est Florent de Besançon. Écoute, je me mets sur France Inter comme d'habitude. Bon, l'émission n'est plus là. J'essaie d'appeler. Bon, il n'y a pas de téléphone accès libre. Enfin, je veux dire, c'est des numéros surtaxés. Je tombe, je fais le 32-30. Premier choix, gagner des cadeaux, jouer en ligne. Ensuite, pour les infos sur la bourse. Je me demande si je suis tombé sur France Inter, radio du service public, ou bien sur une radio privée. Ma foi, bon, bah bref, 32-30, j'ai pu avoir personne. Voilà, comment faire l'impasse. Alors, je me remets sur le répondeur de là-bas si j'y suis, en attendant que ça devienne un numéro surtaxé et puis qu'on me propose de faire le choix d'eux pour acheter des actions en France Inter dans le cadre d'une ouverture de capital, ce qui ne va pas tarder. Allez, ciao, à bientôt.
Bonjour, Daniel Mermet, Jean-Nel de Paris. Voilà, vous êtes un excellent journaliste, certes. Mais si vous me passez l'expression, vous commencez à nous les briser menus avec votre martyr médiatique. Alors je pense qu'une radio comme France Inter, se soumettre ou disparaître, je pense que beaucoup de journalistes de par le monde rêveraient de pouvoir s'exprimer tels que Guetta, Bromberger, Paoli et vous, Daniel Mermet, sur une radio aussi oppressive. Vous le savez aussi bien que moi. Bien, je vous remercie, au revoir.
Eh bien, bonjour. C'est un plaisir d'avoir ce répondeur. Un grand plaisir aussi d'avoir pu vous réentendre de nouveau. Voilà. Eh bien, écoutez, on peut dire aussi que le slogan de France Inter, avec France Inter, écoutez l'indifférence. Vraiment, c'est quand même malheureux. Et je pensais quand même Sarko. Plus intelligent que ça, vous voyez. Bon, il est cocu, certes, ça arrive à des gens bien, heureusement que ça arrive à des gens comme lui, comme quoi Cécilia a du courage aussi. Et l'esprit de résistance, c'est dans le ventre. Il y a l'esprit de lâcheté, l'esprit de résistance, on le fait pas, ça, je crois qu'on est avec. Voilà. Donc, merci d'être là à 15h, certes. Moi, je n'écoute plus France Inter j'écoute plus France Inter, j'écoute Daniel Mermet et votre équipe de 15h à 16h et après rideau. Voilà. Donc, plus de télé, plus de radio. On devient un peuple informé. En fait, du moins, moi, je suis un citoyen informé. Heureusement que nous avons Internet.
Allô Daniel, je suis une simple AMG, comme tu disais dans ta première émission. Je suis ravie que tu sois revenu sur l'antenne. Et ben moi, ma punition pour France Inter, c'est de n'écouter que ton émission. Voilà, je vous embrasse très fort et très contente de vous revoir à l'antenne, de vous entendre à l'antenne. À bientôt, au revoir.
Bonsoir l'équipe de là-bas, si j'y suis. C'est Philippe, un grogneur d'antan. Ben, je viens de mettre en œuvre la riposte, à savoir écouter l'émission sur le net, comme on dit. Ben, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas comme avant, hein, parce que avant il y avait les postes de radio de toute la maison qui diffusaient là-bas si j'y suis. Et là, je suis un peu scotché dans le canapé, quand même. Mais bon, c'est déjà ça. Et puis, C'est l'occasion pour moi de faire vraiment un vibrant hommage à cet auditeur ou cette auditrice qui nous met tout ça à disposition sur le fameux site. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt, et je vous écoute toujours, bien sûr. Salut.
Voilà, ça hésite entre le mieux que rien et écouter l'indifférence avec un petit coup de chapeau, effectivement, à cet auditeur qui, depuis des années, a fait ce site, là-bas.org. Il l'a fait tout seul. Et c'est un bon secours, et un bon refuge et un bon repère pour les AMG, les auditeurs modestes et géniaux. Ça, on a sorti ça hier, AMG, auditeurs modestes et géniaux, que vous êtes pour écouter cette émission et la podcaster, ainsi que, et d'abord, bien sûr, sur franceinter.com. Alors, il y a eu un petit hiatus hier, le podcast ne marchait pas encore pour des raisons sombrement administratives. Ça y est, c'est réglé aujourd'hui, donc vous allez pouvoir podcaster l'émission et la réécouter sur franceinter.com. Ça c'est pendant 24 heures. Et ensuite sur là-bas.org, ben les émissions sont archivées et, comme on dit, podcastables. Alors ceux qui nous disent oh mais il n'y a pas de problème, vous avez perdu 250 000 auditeurs, mais il y a le podcast. Non, bien sûr que non, ça ne rattrapera pas ces auditeurs perdus. Mais voilà, ça rebondit. Le combat continue selon la bonne vieille formule qui nous est chère. Quoi dire aussi? Toujours sur là-bas.org, vous avez des compléments maintenant à certaines émissions, par exemple l'entretien d'hier avec Maurice Criégel Valrimont. Vous avez un complément puisque François Ruffin avait été retourné le voir, et il y a une suite à l'émission d'hier que vous pouvez retrouver, ainsi qu'un script de cet entretien. C'est un auditeur aussi qui a fait ça, qui a tenu à scripter. C'est pas mal d'avoir les textes comme ça à l'appui et de pouvoir revoir ça tranquillement à oreille reposée. On va multiplier ce genre de choses. Par exemple, aujourd'hui, l'émission avec le monde diplomatique. Vous savez que chaque mois, depuis des années, on se retrouve avec l'équipe du monde diplomatique qui, dans ces médias qui effectivement ressemblent de plus en plus, tous ressemblent. Et ben, il y a une autre manière de voir qui est celle du monde diplomatique. On aime bien la faire entendre. Et donc, il y aura là aussi un complément aux entretiens qu'on va avoir aujourd'hui jusqu'à 16h sur le site là-bas.org. Et puis, oui, on a oublié de coup de chapeau à ceux de l'équipe de là-bas, si j'y suis, qui ont fait l'été, qui ont travaillé cet été sur France Inter. Aussi bien les réalisateurs, Corinne Guyenne, Yann Chouquet et d'autres. Et puis aussi Olivia Gesbert, qui a fait une magnifique émission tous les matins de l'été. Et puis Guy Vanctil avec En Route, qui était le vendredi. Voilà, ils nous ont fait un beau boulot et ils sont avec nous pour cette saison de la Basse J'y suis. Donc voilà, on retrouve aujourd'hui l'équipe du monde diplomatique après les messages que voici. Et que vous nous adressez au 01 56 40 37 37, le numéro du répondeur de la base où j'y suis.
Salut, c'est Régine et Serge Duchers. Bon, ce matin, on a écouté un peu la présentation des programmes par Madame Giordano. Et bon, j'étais un petit peu choqué, à tout bout de champ, elle employait le terme « les auditeurs sont des consommateurs, consommateurs, consommateurs », elle a prononcé au moins 30 fois « consommateurs ». Bah, puisque nous sommes des consommateurs, nous allons aller sur des radios qui consomment et qui sollicitent les consommateurs. Par contre, nous réserverons toujours une petite plage, de là actuellement, de 15h à 16h, pour Monsieur Mermet. Et pour José Arthur le vendredi, ça c'est un petit cadeau aussi. Eh ben salut, un bisou à Madame Giordano. Au revoir.
Bonjour, là-bas si j'y suis. Qu'est-ce que j'entends? Il est 15h et on m'annonce que, bah voilà Daniel Mermet. Ah bah oui, j'ai oublié, ils l'ont dit ce matin, les cocos, que vous étiez bien déplacés. Bon, je savais bien que ça devait arriver, mais bon, voilà. Alors moi j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vous écouter à 15h, mais c'est complètement exceptionnel. Et bon, bah les autres fois, bah on va se débrouiller autrement, parce que comment il va faire mon petit amoureux tout à l'heure quand il va rentrer du boulot, ouvrier intérimaire, et qu'il pourra pas vous écouter à 17h. Tant pis, on va se débrouiller avec la technique. quoi qu'il en soit, bon, eh ben, ils m'ont fait un peu marrer ce matin, là, avec leur jargon, bidule, machin, leur faux semblant, leur fausse démocratie, leur fausse écoute de l'auditeur, la soi-disant donner la parole, tu parles. Enfin bon, on va pas insister. Je suis vachement contente de vous réécouter. J'ai écouté quelques petits jeunes là de là-bas cet été. Ils étaient super. Olivia, Give, etc. Je me grouille parce que j'ai la radio allumée. Mais je veux pas vous rater au début. Donc gros bisous. C'est pas la peine de passer ça à l'antenne. Vous en avez des bien bien meilleurs en général. Et puis ben on vous embrasse Pascal et Sylvie. On habite à côté de Toulouse et puis on vous envoie régulièrement des petits mails. Allez, bis à vous et on est là quoi. On va pas vous lâcher. Même à 15h, on va essayer de se débrouiller. Allez, ciao.
Salut, c'est Daniel Mermet avec le monde diplomatique dans ce numéro de La Basse si j'y suis. Serge Halimi, François Bérou, même combat. Flight number 2, arriving from New York. Voilà, alors nous voilà pour une nouvelle année avec l'équipe du monde diplomatique. Et on commence avec ce numéro de septembre. Et ce numéro de septembre commence par un éditorial sur Cuba. Cuba, c'est un sujet sensible, Maurice Lemoine, qui est toujours traité de façon particulièrement attentive par le monde diplomatique depuis longtemps. Et évidemment, sur ce sujet, on vous attend au tournant. C'est un sujet toujours très passionnel, très passionné, et vous ne pouvez pas faire autre chose que d'en parler. Vous en avez fait l'éditorial du Diplo de ce mois de septembre.
Oui, effectivement, plus qu'un sujet sensible, je dirais que c'est un sujet passionnel surtout. C'est la raison pour laquelle on a parfois des difficultés à en parler, dans la mesure où la tendance générale est de présenter la situation soit en blanc, soit en noir, soit en bien, soit en mal, et qui consiste à soit considérer que Cuba c'est le phare de la révolution socialiste, soit c'est la dernière dictature archéo, etc. Alors, bon, ce qui se passe, évidemment, on le sait, c'est que Fidel Castro a des problèmes de santé, sans doute assez sérieux, et que pour la première fois, le 31 juillet dernier, il a laissé le pouvoir provisoirement à une équipe, dans le cadre de la Constitution, d'ailleurs, il faut le préciser, de cette personne, plus son frère Raoul. Son frère Raoul, évidemment, ça fait sourire, ça fait ricaner, c'est vrai que c'est une réaction après tout normale, mais on pourrait dire d'une certaine manière que la présence de Raoul Castro à la tête de l'État cubain n'est pas plus illégitime que celle de George W. Bush après son papa, ou que celle en Colombie, par exemple, de Andrés Pastrana après son père qui a été président, Misael Pastrana, dans la mesure où Raoul Castro, en fait, est avec Fidel depuis le début de la Révolution. Il a participé en 1953 à l'attaque de la caserne de Moncada. Il a débarqué avec Castro et Che Guevara en venant du Mexique sur le fameux petit bateau en main, et en fait, il a une, ce qu'on pourrait dire, une légitimité révolutionnaire. Alors, la première réaction, évidemment, c'était de se dire un seul être vous manque et tout va exploser. Hein, c'est-à-dire, il n'y a plus Fidel, Cuba, et on a vu pas mal d'éditoriaux, pas mal de commentaires, s'imaginant qu'on allait assister immédiatement à une place Tiananmen à Cuba, ou que des milliers de Cubains allaient descendre à la rue pour demander un changement. Alors, c'est vrai que, de notre point de vue, d'occidentaux, d'européens, il y a un certain nombre d'atteintes aux libertés qui sont patentes à Cuba. Hein, atteintes à la liberté de la presse, atteintes à la liberté d'opinion, atteintes à la liberté d'expression, c'est pas un secret. En même temps, il est intéressant de replacer Cuba dans un contexte qui est un contexte de guerre. Hein. Le fameux blocus, on nous dit c'est un prétexte, Fidel Castro s'est appuyé sur le blocus pour durcir le régime. Non, c'est une véritable guerre. Vous savez qu'en droit international, depuis 1909, un embargo est considéré comme un acte de guerre. Alors, est-ce que ça a des effets? Oui, ça a des effets. J'ai là un rapport qui a été présenté à l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui pour la énième fois cette année a condamné le blocus à l'unanimité moins 4 voix, les États-Unis, Israël, Palau et puis, je ne sais plus, les îles Marshall.
Mais ce que vous faites dans ce papier, Maurice, et ce que fait souvent le Diplo, c'est replacer Cuba dans sa région,
en Amérique latine, et il faut voir comment Cuba est vu depuis l'Amérique latine. Il faut quand même bien comprendre, replacer Cuba et Castro dans cet environnement. Je me souviens d'avoir vu à La Paz, en Bolivie, une visite de Castro à La Paz. Il dit, bon, ça doit être un vieux dictateur qui passe avec un cortège officiel et puis quelques personnes à payer pour l'applaudir. Pas du tout. Il y avait une foule considérable qui était là pour applaudir aussi bien un symbole que ce qu'il représente comme lutte à l'intérieur de ce pays, et vous faites état de l'évolution de l'Amérique latine.
C'est toujours très très frappant lorsqu'on parle de Cuba de voir les différences d'appréciation entre celles qu'on peut avoir soit depuis les États-Unis, soit depuis l'Europe, et celles qu'on a depuis l'Amérique latine. L'Amérique latine connaît le contexte. L'Amérique latine sait dans quel environnement géographique, géopolitique se situe Cuba. Aucun pouvoir latino-américain ne veut reproduire la révolution cubaine. En revanche, elle demeure un exemple, ne serait-ce que par la résistance depuis 1959 à l'Empire. Sur la révolution cubaine, c'est plus un modèle. Mais il y a pas très longtemps, il y a quelques années, un congrès d'économistes avait lieu à Cuba. Et un économiste latino-américain, enthousiasmé, lance depuis la tribune « Compañeros, nous devons faire ce qu'a fait Cuba. Nous devons faire la révolution qu'a fait Cuba. » Et à ce moment-là, Fidel Castro se lève. Elle lui dit « Non, compañeros, tu te trompes. On n'a pas fait la révolution qu'on voulait faire. » On a fait la révolution qui nous a été imposée, et en particulier par l'attitude des États-Unis. Mais ce n'est pas la révolution dont on avait rêvé. C'est-à-dire que le contexte est bien précis, et on le voit en ce moment. On le voit en ce moment lorsque la commission d'aide à Cuba Libre, qui est présidée par Condoleezza Rice, et qui est présidée par Carlos Gutiérrez, qui est le ministre du Commerce, Serge. Carlos Gutiérrez aux États-Unis. Oui, bon, Serge, je viens de prendre Serge en...
Flagrant délit de flottement.
Vient de sortir un rapport dans lequel il est clairement dit qu'il faut tout faire pour empêcher la succession du régime de Castro de réussir, dans lequel on annonce que 62 millions d'euros vont être dirigés vers les dissidents cubains dans l'île. Comment voulez-vous qu'un régime, quel qu'il soit, dont les opposants reçoivent de l'argent de l'étranger, ne soit pas considéré comme une sorte de cinquième colonne? Ça explique aussi l'état de la répression. Il ne s'agit pas de la justifier, il ne s'agit pas de dire c'est bien. Il suffit simplement de replacer dans le contexte. En ce moment, les États-Unis souhaitent effectivement finir avec Castro et avec le socialisme dans l'île. Et ce qu'on constate, c'est qu'en Amérique latine, il n'y a pas la même vision. Et que récemment, en juillet dernier, Fidel Castro est allé en Argentine, au sommet du Mercosur, et qu'il a signé un important accord commercial avec les pays du Mercosur, et en particulier le Brésil et l'Argentine, qui sont des démocraties, qui ne sont pas sur la ligne idéologique de Cuba, mais qui reconnaissent en Cuba à la fois les efforts qui ont été énormes pour un petit pays en butte à l'agression permanente en matière de santé, en matière d'éducation. On le sait, on le répète toujours, on nous reproche de le répéter toujours, mais c'est une réalité. Il faut avoir visité le Honduras, le Guatemala, le Nicaragua, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, pour savoir ce que ça signifie. Et donc ces pays ont ouvertement défié l'embargo américain, sorti Cuba de son isolement, et en même temps, pour ceux, et nous en sommes, et j'en fais partie en tout cas, qui souhaitent qu'il y ait une évolution à Cuba, c'est sans doute du côté de ces pays qui tentent de réinventer un socialisme du 21e siècle, un socialisme démocratique, que Cuba trouvera des appuis et des exemples pour évoluer, et pas dans une Europe qui passe son temps à lui donner des leçons et à se boucher le nez dès qu'on parle de la Havane. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás.
Ok, on continue avec le Monde diplomatique de ce mois de septembre avec Ignacio Ramonet qui donne un grand article sur le nouvel état du monde. Pas moins, il faut dire que ce numéro s'intéresse à l'état du monde 5 ans après le 11 septembre, 5 ans de guerre au terrorisme, situation en Afghanistan, situation en Irak et ouverture d'un troisième front. On l'a vu cet été au Liban. Les choses sont suspendues, en tous les cas, sur ce troisième front. Enfin, le bilan, vous essayez en tous les cas de le faire sur ces 5 années.
Voilà, oui, le grand dossier de ce numéro de septembre du Monde diplomatique, c'est 5 ans après le 11 septembre, qui est une date de rupture, de toute évidence, qui est une date coupure, en tout cas une date qui a marqué les esprits et qui a déclenché 2 grandes interventions militaire, la guerre en Afghanistan, et d'autre part l'invasion, l'occupation de l'Irak, le renversement de Saddam Hussein, et puis aussi une troisième guerre, en quelque sorte beaucoup plus diffuse, qui est la guerre, ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme international. Et donc par conséquent, cette date donc, qu'on a à l'esprit, eh bien nous allons commémorer le 5e anniversaire, le 11 septembre prochain. Alors l'idée c'est: que s'est-il passé au cours de ces 5 dernières années? Est-ce que le projet, qui était le projet de Bush et de son entourage, qui était de construire un monde moins dangereux grâce à l'utilisation de la supériorité écrasante du point de vue militaire des États-Unis, est-ce que vraiment, aujourd'hui, on a un monde plus sûr, plus stable, dont on peut voir finalement vers quoi nous nous dirigeons de manière très claire. Et bien voilà, donc il y a un dossier qui est fait là-dessus. Je pense que beaucoup de lecteurs doivent souhaiter, et je pense que d'autres publications vont essayer de le faire. Là, nous donnons notre point de vue. Dans le cadre de ce dossier, ce que moi j'ai essayé de faire, c'est une sorte de, disons, grille de lecture pour lire le monde d'aujourd'hui tel qu'il est. C'est-à-dire que nous avons l'impression, en écoutant les informations, en regardant la télévision, en lisant les journaux, etc., que le monde est devenu, et c'est pas faux d'ailleurs, extrêmement complexe, avec quantité de conflits qui sont imbriqués les uns dans les autres, quantité de transformations, des informations qui sont, ou des transformations qui sont d'ordre économique, des transformations d'ordre politique, militaire et sociale. Est-ce que l'on peut essayer de bâtir, de construire une sorte de cartographie qui nous permette de distinguer au milieu de ce chaos qu'est le monde d'aujourd'hui des lignes de force pour nous repérer. Voilà un peu ce que j'ai essayé de faire. Alors, je ne vais pas résumer ici un article qui est assez long et assez dense, mais je voudrais insister sur le projet. Le projet, c'est cela. Autour de quelle idée? D'abord, l'idée de ce que j'appelle le foyer perturbateur. Voilà. C'est-à-dire que dans le monde, les historiens savent bien, la planète, à quelque époque que ce soit, curieusement, il y a une densité de conflits plus importante dans une région que dans d'autres. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs, il n'y a pas de conflits, mais pour des raisons historiques, eh bien, il y a, disons, une région, une zone où se multiplient les foyers de tension et les explosions.
Ça,
les...
c'est le Moyen-Orient.
Alors, aujourd'hui, c'est le Moyen-Orient, un Moyen-Orient élargi. C'est-à-dire un Moyen-Orient qui commencerait au Pakistan, disons, hein, Moyen-Orient proche et Moyen-Orient, qui commencerait, qui engloberait une région, qui engloberait à partir du Pakistan, l'Afghanistan, vers le nord, le Caucase, le Kurdistan et même le Kurdistan turc, qui irait sur le Darfour au Soudan, engloberait l'ensemble de la péninsule arabique, bien sûr le conflit israélo-palestinien, et l'Irak, etc., toutes les tensions actuellement autour de l'Iran. Ce foyer perturbateur, ce que je veux dire par exemple pour que les lecteurs voient bien, c'est que au cours du XXe siècle, le foyer perturbateur du monde, là où il y a eu le plus de conflits, le plus de tensions, le plus de morts et le plus de guerres, c'était l'Europe, qui est aujourd'hui, curieusement, le continent le plus apaisé, mais après 2 guerres mondiales et une 3e guerre qu'on a appelée la guerre froide. Bon. Eh bien, aujourd'hui, ce foyer perturbateur, cette zone qu'on vient de décrire, est celle qui réunit, rassemble le plus grand nombre de conflits. Ces conflits, curieusement, alors que, disons, sur un autre plan, La caractéristique principale de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire si ce monde, si nous devions caractériser ce monde par un trait principal, il n'est pas d'ordre militaire, il est d'ordre économique. On dirait le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de la globalisation économique. C'est ça qui est la grande marque du monde. Eh bien, la globalisation économique qui intensifie les échanges, qui accélère les échanges, qui les multiplie, ne pèse pas à l'heure de finalement réduire les tensions dans cette région. Le dernier conflit qu'on vient de voir entre Israël et le Hezbollah et le Liban, et d'autre part entre Israël et les Palestiniens à Gaza, ben, on voit bien que la globalisation n'a pas, disons, déclenché ce conflit, ce dernier conflit, je parle, ni apaisé ce conflit, finalement n'a pas pesé sur ce conflit de manière directe. Donc c'est un aspect que j'essaie de souligner. L'autre, c'est que je mets en garde aussi nos lecteurs que le Proche-Orient, en raison de tous ces conflits, est constamment présent à la une de l'information, mais il ne faut pas que ça constitue un écran nous empêchant de voir des réalités qui peuvent être plus importantes pour l'avenir du monde que cet ensemble de conflits, même si, bien entendu, la dimension du drame humain ou de la tragédie est importante, parce qu'il est clair aujourd'hui que bien des enjeux du 21e siècle se jouent, par exemple, en Asie, et que l'Asie n'est pas tous les jours en première ligne, et que ce qui se passe entre la Chine, l'Inde, la péninsule coréenne, le Japon, etc., et l'ensemble de ces relations, y compris économiques, bien entendu, et notamment le développement de l'Inde et de la Chine, vont avoir des conséquences très importantes dans, déjà, on en a beaucoup actuellement, mais vont avoir plus tard, et pourtant, il n'y a pas de conflits ouverts, qui sont ceux qui attirent davantage les médias. Deuxième aspect, ce n'est pas parce que, là encore, l'Afrique n'est pas à la une des médias, que ce qui s'y passe, comme dans une marmite à pression, et en particulier le désespoir de dizaines de millions de personnes, n'aura pas des conséquences dans, finalement, la réalité du monde d'aujourd'hui. La preuve, c'est que les débordements de la misère qui arrivent vers nous sous la forme, qui s'exprime sous la forme de l'émigration clandestine, eh bien, devient un des problèmes principaux du monde d'aujourd'hui, et un problème de plus en plus traité, non pas, disons, comme un problème social, mais de plus en plus traité comme un problème de sécurité nationale. On voit, par exemple, les États-Unis décider de construire une barrière de sécurité, en quelque sorte, contre les immigrés, alors qu'ailleurs, on construit des barrières de sécurité pour des raisons de protection militaire. On voit comment, au détroit de Gibraltar ou au large des Canaries, on construit des barrières de sécurité électroniques cette fois-ci, avec la constitution au sein de l'Union européenne, là aussi d'un corps quasiment militaire et policier spécialisé pour retenir ces différents immigrés. Donc voilà, ce qu'on essaie de faire, je donne là quelques exemples, ce que j'essaie de faire en 4 remarques et 10 considérations, hein, c'est donc une quinzaine d'idées qui permettraient, disons, au lecteur d'avoir une grille plus générale pour comprendre le monde d'aujourd'hui.
Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra, comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui boit, dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu, et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui, et ça pleure au fond de lui. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin « je t'aime » à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent, ils veulent être or puisqu'ils sont cuivres. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles, et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance. Il dit, ramons tous à la même cadence. Dans le bar, il y a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le détroit de Gibraltar, un jeune noir prend ses valises, sort du piano bar, échange ses quelques devises. Encore gros d'émotion, il regarde derrière lui et embarque sur le bateau. Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue. Vogue vers le Maroc tout proche. Vogue vers ce Maroc qui fera de lui un homme. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc.
Vous avez un papier aussi du Bervedrine, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères, sur Fukuyama, c'est-à-dire celui qui est la référence des néoconservateurs américains, et il nous explique comment Fukuyama lui-même commence à douter de la validité de la politique des américaines d'aujourd'hui.
Oui, si on lit les derniers articles qui ont été diffusés dans le monde entier de Francis Fukuyama, eh bien, on se rend compte qu'il n'est pas du tout dans la même analyse, alors qu'on a pu utiliser les thèses, où on a pu dire les néoconservateurs ont utilisé ces thèses pour théoriser l'idée de la fin de l'histoire, puisqu'il avait été un petit peu le théoricien de la fin de l'histoire après la chute du mur de Berlin et l'implosion de l'Union soviétique. Il n'est plus, et il est lui-même aujourd'hui, un de ceux qui critiquent en particulier Bush sur cette question dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire sur l'idée que le recours à l'instrument militaire n'est pas la solution à l'ensemble des problèmes. Oui, Serge.
Serge Alimi. Il faut préciser que pour lui, c'est un revirement complet, puisque à l'origine, il était...
Pour Hubert Védrine.
Pour Fukuyama, puisqu'à l'origine, il était de ceux qui incitaient Bush à se lancer dans la guerre d'Irak, et qu'il était... Il faisait partie du petit groupe d'intellectuels qui estimait que la guerre du Golfe de 1991 n'avait pas réglé le problème Saddam Hussein et qu'il était important que les États-Unis s'y emploient. Et je crois que les résultats des États-Unis sur le terrain ont progressivement convaincu Fukuyama du contraire.
Fukuyama n'est pas le seul à avoir connu ce revirement spectaculaire. L'autre, je veux dire, j'attire l'attention en particulier des auditeurs s'ils le souhaitent et s'ils veulent chercher un petit peu dans Internet, c'est Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs a été, en quelque sorte, l'un des disciples de Milton Friedman, un des plus jeunes d'ailleurs. C'est lui qui avait conduit les grandes thérapies de choc, on appelait ça, pour, disons, introduire au forceps le néolibéralisme dans un certain nombre de pays, en particulier en Bolivie. Il était très jeune d'ailleurs, hein. Il avait été conseiller de Pinochet pour introduire le néolibéralisme au Chili, ensuite en Bolivie, ensuite en Pologne et ensuite en Russie, à l'époque de Helsinki. Si on lit les textes de Jeffrey Sachs aujourd'hui, hein, ils sont disponibles, eh bien, on voit à quel point Jeffrey Sachs aujourd'hui est devenu un critique radical de la globalisation, un des plus radicaux. Aujourd'hui, il est sur la ligne de Stiglitz. On pourrait, dans le monde diplomatique, lire des textes de Jeffrey Sachs, en particulier lorsqu'il insiste sur à quel point la globalisation a créé deux mondes, et notamment un monde de la détresse, dont le nombre des personnes qui sont tombées dans la détresse augmente, et aussi un des plus, radicaux opposants à la politique du président Bush, notamment au Proche-Orient. Donc il y a effectivement des transformations de ceux qui, il y a encore quelques années, était sur une ligne, disons, de « il n'y a qu'une théorie, c'est la théorie néolibérale et elle résoudra tous les problèmes, et il n'y a qu'un moyen, c'est le moyen militaire pour imposer la démocratie évidemment libérale partout ». Aujourd'hui, certains des grands prêtres de cette idéologie sont totalement revenus sur leurs idées anciennes.
Alors, on est...
est toujours avec le monde diplomatique de ce mois de septembre et on va aller à l'hôpital. On va aller à l'hôpital avec André Grimaldi qui donne un long papier dans le Diplo de ce mois. Et André Grimaldi, vous êtes médecin, vous êtes chef de service en diabétologie à la Pitié-Salpêtrière. Qu'est-ce qui va pas ?
Mais ce papier...
Et qu'est-ce qui va ?
Disons le but du papier. Le but du papier, c'est d'expliquer le fond d'une réforme qui est mise en œuvre, mais qui n'a pas fait objet de débat public, vraiment. Cette réforme a été débutée en même temps qu'il y avait la réforme de la sécurité sociale, que tout le monde connaît. Il faut payer 1 euro quand on va voir son médecin généraliste. Si on va voir le spécialiste sans voir le médecin généraliste, il faut payer 7 euros. Si on a des coûts de santé très importants, on a 18 euros à charge. Tout le monde a vécu cette réforme. Parallèlement, se mettait en place une réforme de l'hôpital. Et cette réforme est une véritable contre-réforme, pour ne pas dire contre-révolution, d'une extrême gravité. Elle remet en cause ce qui est un des services publics les plus chers, quels que soient ses défauts, du système français, et qui fait qu'en France, on est un des pays où, globalement, on est le mieux soigné, avec une égalité de soins qui est certes très imparfaite, très insuffisante, mais qui est quand même une des meilleures du monde. Alors ça
est et c'est ça qui est mis en cause.
C'est ça qui est mis en cause. C'est ça qui est remis en cause. Et d'une manière... Moi, je réagis en tant que médecin, pas en tant que politique, qui remet en cause de manière subrepticement, sans en avoir l'air, progressivement. Quel est le grand changement ? Le grand changement, c'est que les hôpitaux avant avaient un budget public. Certes qu'il dépassait, il y avait des difficultés, on sait que ça coûte très cher, mais c'en est fini. On va avancer vers un paiement à l'activité comme le fait toute entreprise. Et pas un paiement à l'activité global, mais un paiement à l'activité pour chaque patient. Autrement dit, quand un patient consulte à l'hôpital et va être hospitalisé, il aura droit à un code, et ce code, c'est une somme d'argent. Et on dit au médecin, vous allez donc avoir des bénéfices sur les malades, il faudra que vos dépenses soient en équilibre. Aussitôt...
Attendez, c'est-à-dire...
C'est-à-dire...
Moi, je viens vous voir... Voilà, j'ai un diabète.
Parce que vous êtes diabétique, mais vous avez, hélas...
Ce n'est pas vrai, amis auditeurs et auditrices.
Vous verrez, personne n'est parfait, ça peut arriver. Après 40 ans, dosez votre taux de sucre dans le sang. Et hélas, vous avez un problème de plaie du pied. C'est très difficile à soigner. C'est long, ça rapporte pas beaucoup. À moi, médecin, qui vais devoir gérer mon service. Par contre, je trouve que ça dure trop longtemps, votre hospitalisation. Donc, je vous ampute l'orteil. Alors là, ça me rapporte beaucoup. Donc, j'ai désormais intérêt à vous amputer plutôt qu'à soigner pour prévenir l'amputation. Je consulte beaucoup. Je consulte, par exemple, le samedi matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Je suis en consultation pour voir des gens qui ne peuvent pas venir en semaine parce qu'ils travaillent ou qui viennent de province. Est-ce que ça me rapporte quelque chose dans les codes actuels ? Zéro. Donc ça, c'est vraiment pas intéressant. Donc désormais, et là, il y a une rupture éthique pour un médecin. On ne soigne pas les gens en fonction de ce qu'ils rapportent, du moins dans le service public. Bien sûr, c'est ce que font en partie des cliniques. Des cliniques qui vont dire « moi, je ne veux pas ce malade, il est mourant, envoyez-le à l'hôpital ». Non seulement ça se dit, mais ça se fait. 75% des Français meurent à l'hôpital. C'est quoi la rentabilité de quelqu'un qui est en train de mourir ? Alors on vous dit, bah écoutez, il ne peut pas être dans votre service, ça coûte trop cher. Il faut que vous l'envoyez dans un hôpital de soins de suite qui coûte moins cher, mais où son conjoint mettra 2 heures ou 3 heures, on ne pourra pas aller le voir tous les jours. Donc quel est le sens d'une rentabilité économique dans un hôpital public ? C'est ça que l'on met en œuvre. Alors, vous comprenez bien, vous dites, mais enfin, ça est un peu un jeu fictif, puisque admettons que vous soyez, et nous allons être en déficit. L'hôpital Pitié-Salpêtrière va avoir un déficit de plusieurs millions d'euros. Qu'est-ce qui va se passer ? Bon, ça ne change rien, vous êtes en déficit. Non, il y a une deuxième étape qui est prévue. Celle-là n'est pas dit ouvertement, mais ceux qui sont à l'origine de la réforme, ceux qui la pensent, l'expliquent. Ce qui coûte cher à l'hôpital, c'est le personnel. 70% du coût hospitalier, c'est un coût de personnel. C'est ce que les économistes appellent la variable d'ajustement. Monsieur Grimaldi, vous et vos pieds, et votre diabétique, et votre éducation pour les malades après être soignés, on en a marre, vous coûtez trop cher. Donc désormais, vous n'êtes pas rentable, et bien il faut fermer. Alors très bien, mais le personnel reste toujours payé. Ah ben non, il faut que ça change. Le but est de changer le statut de l'hôpital public.
Mais qui veut changer ? Quels sont là ? Il faut, il y a... Qui veut changer ? Quels sont les penseurs et quels sont les acteurs de ce changement ?
Alors, un certain nombre d'économistes de santé, et qui, étonnamment, ont convaincu à la fois des hommes politiques de droite, mais des hommes politiques un peu inattendus de gauche. C'est ce que pense l'ancien directeur des hôpitaux de la gauche, Jean de Kervas-Doué, qui dit la réforme a pour but dans 8 ans de pouvoir licencier. Voilà. Donc, pour faire ça, il faut changer le statut de l'hôpital public. Et faire quoi ? Le faire institution privée à mission de service public. Comme il existe déjà des hôpitaux. L'hôpital Saint-Joseph, la cité universitaire, ont ce statut. À l'hôpital Saint-Joseph, actuellement, il y a un plan de restructuration. On envisage de supprimer 400 emplois de personnel non médical et 20 emplois plein temps de personnel médical. Donc, c'est ça le but. C'est faire en sorte que l'hôpital ait une fonction congrue. Deuxième objectif de cette réforme, c'est que ce financement, par pathologie, par activité, par malade, a été mis sur le même plan, avec les mêmes codes, pour les cliniques privées et pour l'hôpital. Avec en disant, la concurrence publique-privée, la complémentarité publique-privée, c'est ce qu'il faut développer. Or, bien évidemment, l'hôpital public n'a pas les missions de la clinique privée. Hein? Alors, la formation, c'est l'hôpital. Les médecins qui sont en clinique privée aujourd'hui, ils ont eu toute leur formation et leur expertise, ils l'ont acquis dans l'hôpital.
Et plaçons-nous de notre point de vue à nous, du patient. En quoi cette réforme change les choses pour le patient, pour le Pékin moyen qui a un malaise, une maladie, un accident, une...
Eh bien, il y a un certain nombre d'activités qui seront peut-être supprimées. Je prends l'exemple de l'éducation pour les patients pour soigner, l'éducation thérapeutique. Si elle est supprimée, eh bien, vous ferez comme vous pourrez. Maintenant, il y aura sûrement des réseaux de santé dits d'excellence. L'AGF, avec son directeur actuel, qui est Gilles Johannet, ancien directeur de la Sécu, donc quelques-uns comme moi, on a comme ça sur l'estomac, un ancien directeur de la Sécu, propose une assurance dite d'excellence. Vous paierez 12 000 euros et vous pourrez voir l'accès aux soins que vous souhaitez, comme vous avez maintenant. Vous pourrez venir me voir un samedi, rapidement, je vous verrai en dehors de votre travail, et puis vous aurez l'éducation thérapeutique que vous voulez. Mais il faudra la payer. En gros, l'idée est la suivante. La santé, c'est une marchandise comme les autres, elle se paye. La grande réforme de 58 sous De Gaulle a été proposée par des médecins, celle qui a créé les CHU. Il s'avère aujourd'hui que le corps médical, et j'en suis assez triste, est incapable d'avoir un projet alternatif. Il appartient donc à l'ensemble de la société de réfléchir au système de santé qu'elle veut pour ne pas laisser faire ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire transformer l'ensemble des hôpitaux en cliniques rentables.
On m'appelle Monsieur Galère, on m'appelle Tonton Misère. Je vis dans un quartier populaire et nous sommes de vrais prolétaires. Insuffisance alimentaire, vestimentaire, monétaire, nous sommes de vrais prolétaires et nous sommes majoritaires sur cette terre de misère. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. Quand il touche son salaire, me donne mon argent de bière et moi je fonce chez ma rombière. Toute la nuit on s'envoie en l'air. Ça c'est tout à fait prioritaire. Chez nous les prolétaires, la bière et les rombières, car on n'a rien d'autre à faire que de s'envoyer en l'air avec nos mégères vers des héritières et des héritiers de la misère. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. Quand il revient de guerre, me garde des pommes de terre, des bouts de pain rassis, de la sardine à l'huile, quelques kilos de riz, c'est de ça que je me nourris. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. J'ai pourtant fait le cours élémentaire, je sais lire, je sais compter. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. même résister le corbeau et le renard. Mais où est donc Ornicar? Je maîtrise même la grammaire. Bijou, caillou, je joue pas le carnaval. Faites quelque chose pour moi, mes frères. Je veux pas mourir dans la misère. Je veux pas finir dans la galère. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. Je m'en vais les mains, manos, aïe, je m'en vais.
Là, c'est la fin avec Serge Halimi, et c'est toujours très, très people avec Serge Halimi. Enfin, d'ailleurs, c'est pas Serge Halimi va parler d'un papier du Monde, publié dans le Monde diplomatique de ce mois de septembre, autour de la technique de communication de Nicolas Sarkozy et des oligarques des médias. Ça, c'est un mot nouveau, oligarque. Hein, c'est oligarque égale Russie.
C'est un peu emprunté, effectivement, d'un langage russe. Mais juste une remarque.
Les oligarques de la presse.
Hein. En entendant André Grimaldi, là, parlant de l'hôpital public se pliant au primat de la rentabilité, j'ai pas pu m'empêcher de penser à l'audiovisuel public qui, lui, se plie
moi
de
aussi.
Plus en plus.
Oh, moi aussi.
Se plie de plus en plus au primat de l'audience.
Oh, moi aussi.
Et on voit comment des institutions qui, au départ, avaient d'autres missions, adoptent progressivement les critères de l'entreprise, les critères du marché, les critères du profit. Alors, pour ce qui concerne donc l'article de Marie Bénilde, là, qui paraît ce mois-ci, sur Nicolas Sarkozy et son réseau, bon, j'imagine que tous les auditeurs ont beaucoup entendu Nicolas Sarkozy cet été. Il faut déjà les prévenir, mais je pense qu'ils le savent, qu'ils vont l'entendre encore davantage cet automne et probablement cet hiver. Donc, on l'entend beaucoup et, en règle générale, on a le sentiment qu'il est très bien traité. Dimanche soir, il était encore l'invité de Claire Chazal et on peut dire que l'entretien s'est déroulé dans d'excellentes conditions avec un certain climat d'amitié qui n'est pas nécessairement réservé à toutes les personnes qu'interrogent Claire Chazal.
Et vous pensez à votre ami Monsieur Bérou ?
Je vais parler peut-être de François Bérou tout à l'heure, justement. et donc Marie Bénilde essaie d'expliquer comment Nicolas Sarkozy a constitué ce formidable réseau de presse qui le favorise, dont l'une des caractéristiques est quand même que à son cœur réside un certain nombre de propriétaires de médias, de grands industriels, qui ont déjà décidé de faire de Nicolas Sarkozy le prochain président de la République et qui n'ont aucun scrupule à utiliser les médias dont ils disposent pour concourir à cette fin. Alors, dans le réseau qu'évoque Marie Bénilde, il y a d'abord le réseau qu'a constitué Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Économie et des Finances. Lorsque vous êtes ministre de l'Économie et des Finances, vous connaissez un certain nombre de dossiers fiscaux. Vous pouvez favoriser un certain nombre d'arrangements concernant les industriels évoqués plus tôt. Il y a aussi le Nicolas Sarkozy qui fut ministre de l'Intérieur. Lorsque vous êtes ministre de l'Intérieur, vous avez à connaître d'un tas de petits secrets qui vous donnent un certain nombre de moyens de pression, le cas échéant, sur des responsables politiques, des chanteurs et d'autres. Il y a aussi le Nicolas Sarkozy qui est partisan de mesures très libérales, dont la suppression de l'impôt sur les successions, proposition qui enchanterait les dynasties Bouygues, Lagardère et Dassault, qui possèdent des médias. Vous avez aussi celui qui fut maire de Neuilly, ville la plus prospère de France, 2400 entreprises, dont certains patrons de médias qui résident à Neuilly et qui ont donc connu Nicolas Sarkozy comme leur premier magistrat. Donc tout ça constitue un réseau très détaillé, très précis. Je n'aurai pas rentré dans le détail puisque l'article, qui est un long article qui s'étale sur deux pages, évoque la constitution de ce réseau. Et cet article évoque aussi tout de même l'une des conclusions assez étonnantes, assez insolites de la constitution de ce réseau, qui est le pouvoir extraordinaire dont dispose Nicolas Sarkozy, puisqu'il y a quelques mois, Nicolas Sarkozy a obtenu d'Arnaud Lagardère, qui limoge le patron d'un magazine grand public, puisqu'il s'agissait de Paris Match, qui n'avait pas, en quelque sorte, constitué ses unes de manière à favoriser Nicolas Sarkozy, et qui rappelait, en quelque sorte, l'histoire concernant sa vie privée, sa femme, ce qui n'avait pas plu à Nicolas Sarkozy. et Marie Bénilde note assez justement que cela faisait longtemps qu'on n'avait pas connu pareille marque d'allégeance journalistique au pouvoir politique. Alors, je ne rentre pas dans les détails des
voilà, ça s'est fait d'une façon éclatante, ça se fait de façon plus feutrée, plus sournoise d'ordinaire.
Ça peut se faire de manière plus feutrée, mais maintenant, je dirais que l'accoutumance est telle qu'on peut être carrément cynique, ouvert. Le fait que Jean-Pierre Elkabbach consulte Nicolas Sarkozy pour savoir qui suivra la campagne de Nicolas Sarkozy, bon, tout le monde en a parlé, mais ça n'a eu aucune conséquence. Et au-delà de tout ça, il y a évidemment les techniques particulières de Nicolas Sarkozy, de séduction de la presse, d'un certain nombre de patrons de presse, dont le détail est également livré dans l'article. Et puis, ces techniques propres de marketing, de présence médiatique constante, qui sont telles que, nous rappelle l'article, désormais l'un des conseillers de la possible candidate socialiste, Ségolène Royal, a expliqué, je le cite, « La présence médiatique donne l'apparence de l'action. On a décidé de faire comme Nicolas Sarkozy. On prend toutes les occasions. On cannibalise tout. » Alors, quand on a cette image globale de Nicolas Sarkozy qui est soutenu par tous les patrons de multinationales, du CAC 40, des médias, etc., on peut trouver un peu insolite que dans le discours qu'il a délivré devant les jeunes de l'UMP hier, au lieu de prendre comme référence ceux qui, après tout, sont les références de la droite, Guizot, MacMahon, Pinet, Pasqua, Chalandon, Aznar, Berlusconi, Madeleine Bouche, qui a-t-il cité ? Qui a-t-il cité, qui a-t-il évoqué la Révolution française, les soldats de l'an 2, Guy Moquet, je le cite, 17 ans et demi quand il fut fusillé, ses camarades gravèrent sur les murs de leur cellule « Nous vaincrons quand même ». Il faut même préciser que les camarades de Guy Moquet, c'était des communistes. Mais ça, ça n'était pas précisé dans le discours. Donc Jaurès, Blum, et puis il y a eu cette tirade hallucinante quand on sait qu'elle venait de Nicolas Sarkozy, je cite, « Vous voyez des gens qui dorment sur le trottoir et l'enfant du tiers-monde qui meurt de faim. Vous voyez des malheureux qui, sur leur pirogue, affrontent l'océan pour gagner ce qu'ils croient être la terre promise et qui perdent la vie avant de toucher le rivage. Et vous n'acceptez pas que le monde qui n'a jamais été aussi riche laisse autant de pauvres sans perspective. » Et ça dans la bouche du ministre de l'Intérieur qui est en train de procéder à ces expulsions massives de travailleurs sans papier. Alors, il y a une chose tout de même qui me paraît intéressante, c'est que, enfin, ce sujet est abordé, ce sujet des rapports entre les industriels, les patrons de médias et Nicolas Sarkozy est abordé, mais alors, il faut avouer tout de même ma surprise, parce que sur ce sujet-là, on attendait José Bové, on attendait Olivier Besancenot, on attendait Marie-Georges Buffet, on attendait Arlette Laguiller, rien. De leur côté, rien, silence total. Et subitement...
François Bayrou, qui est avec nous en direct, merci beaucoup d'être dans ce journal.
C'est François Bayrou qui, sur TF1, a eu le courage de mettre en cause...
Je considère pour moi Claire Chazal...
le pouvoir que TF1 s'arroge de favoriser une candidature particulière, qui est la candidature de Nicolas Sarkozy, qui fut le parrain du patron de TF1, de Martin Bouygues.
Je considère pour moi, Claire Chazal, que l'argent et la politique doivent être séparés, notamment lorsque ces puissances économiques détiennent de très grands médias.
C'est une accusation extrêmement violente qu'il faudrait, j'allais dire, étayer par des choses concrètes. L'amitié ne signifie pas forcément une prise de position ou des concessions sur l'idéologie et les idées politiques.
Je comprends très bien, Claire Chazal, que vous défendiez cette thèse précisément sur votre antenne.
Je ne défends aucune thèse.
Mais je puis vous assurer qu'il y a un problème républicain dès l'instant que de très gros intérêts financiers, industriels, sont liés à de très gros intérêts médiatiques et sont en liaison intime avec l'État.
Rien à ajouter. Je veux dire, c'est parfait. Encore une fois...
Le diplôme vote Bayrou.
Je ne sais pas si vote... C'est peu vraisemblable, parce que avant de voter, je me souviendrai peut-être du bilan du député François Bayrou et du ministre François Bayrou qui a permis un certain nombre des évolutions qu'il dénonce aujourd'hui. Mais ce que je remarque, c'est que ce discours-là, qui aurait dû être tenu par la gauche et par l'extrême-gauche, à force de l'avoir abandonné, il se retrouve repris par François Bayrou, ce qui n'est pas un mince paradoxe.
Voilà, François Bayrou, superstar. Il y a un livre de Jean-François Kahn là, qui vient de sortir, Les Bullocrates, où lui aussi traite ce sujet, évidemment, des connivences, d'étroitesse entre les classes politiques médiatique et on regrette peut-être que François Bayrou ne regarde pas pour l'instant du côté des radios et de l'audiovisuel public, mais ça ne saurait tarder. Merci à tous, en tous les cas merci à l'équipe du Monde Diplomatique, à Ignacio Ramonet, à Serge Halimi, à Bernard Cassen, à Maurice Lemoine et au docteur Grimaldi, André Grimaldi, à lire tout cela dans le numéro de septembre du Monde Diplomatique avec beaucoup d'autres papiers d'articles, évidemment, vous vous en doutez. À réécouter cette émission sur franceinter.com. Le podcast est en place désormais. Il est 16h sur France Inter. Je suis trop bavard. On se retrouve demain à 17h pour la basse si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Claire Servageant. Salut, à demain.